Bonjour, bonjour, c'est Stéphanie Régnier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Héloïse Boll, qui est la fondatrice d'Oseille et Compagnie, qui est une société de conseil en gestion de patrimoine et en finance personnelle. Elle est aussi l'autrice du livre « Les bons comptes font les bons amants ». Bonjour Héloïse.
Bonjour Stéphanie.
Alors, comment ça va aujourd'hui?
Eh ben, ça va pas mal.
Mais écoute, Héloïse, je suis ravie de te faire venir sur le Cash Talk. J'aime bien interviewer des femmes qui parlent d'argent, donc tu en fais partie. En plus, tu as écrit sur l'argent. Et je voulais te poser la question que je pose à tout le monde. C'est quoi ton job?
Alors, mon job maintenant, depuis 3 ans et demi, depuis que j'ai créé Oseille et Compagnie, c'est de conseiller les particuliers et les particulières sur leurs finances personnelles. J'ai créé Oseille et Compagnie pour ça, qui est ma société, et c'est du conseil indépendant. C'est une petite subtilité en fait, mais la plupart des conseillers en gestion de patrimoine se rémunèrent sur les produits qu'ils placent et sur l'épargne qu'ils placent pour leurs clients. Moi, je fonctionne pas du tout comme ça, en fait. Je fonctionne avec une facturation au conseil. Et donc, ça veut dire que j'ai pas spécialement d'intérêt à préconiser telle ou telle solution. Je fais un audit global et de temps en temps, parmi mes clients, il y a des gens qui ont déjà fait beaucoup de choses qui sont vachement bien. Et donc, parfois, mon conseil, c'est continuer plutôt comme ci, comme ça, mais sans qu'il y ait de nouveaux produits ou de nouvelles choses dans leur besace de produits financiers ou immobiliers. Et donc, voilà, l'idée du conseil indépendant, c'est qu'on pousse pas forcément à la consommation, en fait.
Oui, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai connu pas mal de CGPI, enfin de conseillers en gestion de patrimoine. Et c'est vrai que bien souvent, ils ont un produit ou plusieurs produits phares. Et donc, quoi qu'on ait comme besoin, ils vont vous dire, prenez une assurance vie de telle marque, ils sont très bien et je vais vous avoir des droits d'entrée réduits, je vais vous négocier ça. Et en fait, c'est un peu le même conseil qui est donné à tout le monde puisque forcément, leur modèle économique à eux est basé sur la rétrocommission. Donc, du coup, ça ne veut pas dire que le conseil en lui-même n'est pas forcément bon, c'est juste qu'il n'est pas forcément très personnalisé. Voilà.
Ouais, et puis, enfin voilà, moi, la seule personne qui me paye, c'est mon client. Donc, ça évite deux choses, en fait. Enfin, ça permet deux choses plutôt. Ça permet une vraie indépendance dans le conseil parce que j'ai pas d'intérêt à préconiser une solution plutôt qu'une autre. Ça m'arrive même de dire à mes clients, mais je pense qu'en allant dans cette voie, vous faites une erreur. Voilà, ça, pour moi, c'est aussi très confortable parce que je ne suis pas obligée de toujours les brosser dans le sens du poil parce qu'il y en a qui partent parfois sur des orientations que je trouve un peu dangereuses. Et la deuxième chose que ça permet, ce conseil indépendant, c'est que ça me permet de servir tout le monde, y compris des gens qui n'ont pas une surface financière colossale.
D'accord,
Et donc, pour ça, c'est vraiment très agréable parce que c'est pas parce que tu n'as pas 150 000 ou 200 000 euros à placer ou beaucoup plus que tu n'as pas des tas de questions, que tu n'as pas envie d'investir progressivement à petite dose, que tu n'as pas envie d'investir dans l'immobilier, que tu n'as pas d'interrogations fiscales, etc. Et finalement, l'idée en fait qui a présidé à la fondation d'Oseille et Compagnie, c'était de pouvoir servir tout le monde.
Ok, très bien. Et je voulais revenir un petit peu, on reviendra un petit peu sur tes activités, notamment en tant que conseillère, mais il y a quelques années, tu as écrit un livre qui s'appelle Les bons comptes font les bons amants. Avec un tel titre, est-ce que ce livre est inspiré de ton vécu?
Non, alors c'est pas du tout inspiré de mon vécu. C'est en revanche inspiré de situations que j'ai observées
D'accord.
à la fois dans mon travail avant de créer Oseille et Compagnie, parce que j'étais journaliste spécialisée dans les sujets financiers et dans les sujets de finances personnelles. Et
D'accord.
J'ai observé certaines situations et j'ai observé notamment des personnes interrogées qui en étaient à leur troisième séparation et qui n'avaient toujours pas compris le principe de leur régime matrimonial. Donc,
Oh oui.
j'étais un peu étonnée de ça, de cette méconnaissance des impacts que peut avoir le régime que tu choisis ou que tu ne choisis pas, parce que beaucoup de gens se marient sans faire de contrat et donc ils connaissent pas les incidences du mariage, tout simplement. Et puis, j'avais un peu plus de 40 ans à l'époque où j'ai eu l'idée de l'écrire, même largement plus. Et en fait, c'est l'âge où tu commences à être cerné par les gens qui se séparent et par des séparations qui sont beaucoup plus lourdes quand tu te sépares après 15 ou 20 ans de vie commune que quand tu te sépares après 2 ans de vie commune et où, dans le meilleur des cas, à deux, tu as acheté un canapé et peut-être un miroir pour installer dans l'entrée, mais t'as pas forcément. Quand tu es ensemble depuis pas très longtemps, tu n'as pas forcément pris des engagements financiers communs très lourds. Alors que quand tu te sépares au bout de 15 ans, 20 ans, souvent, que tu le veuilles ou non, il y a eu des interactions financières entre les deux, ne serait-ce que parce que tu t'es marié ou tu t'es pacsé et que tu as fait des déclarations d'impôts communes et toutes ces choses-là. En fait, c'est des séparations qui peuvent faire très mal sur le plan financier. Je parle pas du plan affectif, enfin, de toute façon,
C'est
c'est
toujours douloureux.
très, très difficile et douloureux. Mais sur le plan financier, ça peut faire très, très mal. Et je me suis dit, bon, de toute façon, les séparations, tu peux pas les éviter. Parfois, elles sont même vachement souhaitables parce que ça va plus. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est que dans les séparations, il y en a de temps en temps qui se retrouvent totalement à poil, alors que les autres sont plutôt à l'aise. Et ça, ce n'est pas possible. Et souvent, c'est parce qu'on n'a pas compris les incidences de son régime matrimonial, c'est parce qu'on a été négligent, c'est parce qu'on ne s'y est pas intéressé, en fait. C'est pas, ou parce qu'on a été naïf et que voilà, on a pensé à l'amour, à toutes ces belles choses. On a pensé que tout irait bien et qu'on était entre personnes de bonne foi, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas à la fin d'une histoire. Et en fait, je me suis dit, il faut que j'écrive là-dessus pour expliquer un petit peu et pour alerter aussi sur la nécessité de comprendre les incidences d'un régime matrimonial, de comprendre les incidences d'un non-régime quand on n'est ni marié ni pacsé, et de comprendre comment
Doser
il faut
parler d'argent
agir
aussi.
en conséquence, en fait, parce que si finalement, par exemple, tu es en union libre sans aucun contrat, aucun pacs, aucun rien du tout, c'est pas forcément grave. Simplement, en réalité, il faut pas t'imaginer que tout ce que vous faites va être commun, parce qu'en réalité, rien ne va être commun. Donc, si tu décides de rester en union libre, par exemple, le jour où tu achètes un appartement, il faut vraiment qu'il y ait ton nom sur les actes, il faut qu'il y ait ton nom sur le crédit et toutes ces choses-là. Et il faut que, de toute façon, tu sois préparé à fonctionner sur le plan financier seul et pas à compter sur un éventuel. Une éventuelle compensation de l'autre qui n'existe en fait que dans ta tête.
Oui, non mais ça me fait sourire que tu dis ça parce que j'avais fait un post il y a quelques temps et j'avais eu des commentaires qui m'avaient, enfin, moi sur le coup ça m'avait surprise parce que c'est pas du tout l'état d'esprit que j'ai, mais une personne qui avait à l'époque été la seule à travailler dans son couple, donc avait fait un crédit seule, sans mettre son compagnon et le père de ses enfants sur le crédit. Et donc quand ils se sont séparés, et entre-temps, et lui, il a retrouvé un travail, donc il s'est dit, je vais faire un crédit travaux pour l'appartement commun. Et quand ils se sont séparés, en fait, elle a gardé l'appartement, ce qui était à son nom, c'était son crédit. Donc lui, il lui a demandé visiblement de lui rembourser au moins les travaux, puisque c'était qu'à ses frais. Et elle lui a dit, bah non, c'est ton crédit, c'est à tes frais. Et je trouvais la situation tellement. Je me
C'est
suis dit,
bizarre, ouais.
waouh, oui, bizarre, parce que d'un point de vue purement très technique, en fait. Il est évident qu'on ne fait pas un crédit travaux pour une maison qui ne vous appartient pas, parce qu'effectivement, après, vous n'avez que vos yeux pour pleurer le jour où vous vous séparez et qu'on vous demande de partir de là.
Non, c'est pas vrai. Ça se règle devant les tribunaux et ça se plaide.
Ah,
Ça
ça
se
m'étonne, tiens.
plaide, sauf que ça dépend quel est ton régime. Si t'es marié, par exemple, il y a ce qu'on appelle une récompense.
Ah, ils n'étaient pas mariés, c'est ça le truc, ils n'étaient pas mariés du tout.
Mais ça se plaide en fait devant les tribunaux parce que ça enrichit l'autre.
Oui, c'est ça.
Enfin, c'est limite de l'enrichissement sans cause. Enfin, moi, je suis pas juriste, mais ça se plaide. Le problème, c'est selon la taille du crédit, enfin, le montant du crédit, etc. Est-ce que tu as envie de te lancer dans 4 ans de procédure
Oui, c'est ça.
pour récupérer 10 000 euros, sachant que la procédure en elle-même, elle va te coûter,
C'est ça.
elle peut te
Peut-être
coûter
5 000.
facilement la moitié et que l'issue est incertaine. Donc, c'est pour ça, en réalité, que j'ai écrit aussi ce bouquin et que dans le bouquin, je dis tout le temps, mais mettez votre nom sur les actes, quelle que soit votre situation, en fait.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est plus facile quand tu te sépares. Et encore, on parle que de la séparation, on parle pas de la mort,
Oui.
là. Ce qui est une autre forme de séparation. C'est plus facile quand tu te sépares de pouvoir revendiquer des choses parce qu'il y a ton nom sur les documents, parce qu'il y a ton nom sur les actes, parce qu'il y a des financements en face, enfin, des flux financiers, des virements que tu as faits sur un compte qui rembourse le crédit, etc. Parce qu'il y a des éléments tangibles.
Oui.
C'est beaucoup plus facile de récupérer tes parts dans ces cas-là. Que de dire et d'aller plaider devant un tribunal au bout de je ne sais pas combien d'années. Oui, mais vous comprenez, lui, il a payé l'appartement et moi, pendant ce temps-là, j'ai payé tout le quotidien, toutes les courses, j'ai assuré beaucoup de choses, j'ai fait du travail gratuit, non rémunéré, du travail gratuit à la maison, etc. Donc, j'ai droit à une compensation. En fait, c'est quand même vachement plus simple
Oui.
de pouvoir revendiquer ces droits-là parce que ce sont des droits qui te sont attachés. Sur des documents légaux, que de revendiquer quelque chose finalement qui relève de la bonne volonté de la personne que tu as en face de toi et puis de l'appréciation d'un juge.
C'est
C'est
ça, oui.
quand même c'est être très naïf que de s'imaginer que en enrichissant la caisse commune avec des cadeaux. Des paiements du quotidien, des restaurants, des vacances, des choses, du travail non rémunéré, ce qui est un vrai sujet pour les
Ça, c'est
femmes,
un vrai sujet, on est
etc.
d'accord.
Bah, tu vas avoir de la reconnaissance. C'est pas vrai en fait. C'est pas. Alors c'est pas toujours vrai en tout cas. Et puis, tu sais, t'as de la reconnaissance qui consiste à dire oh là là, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Et puis, tu as la reconnaissance. Oui, alors donc, je te signe un chèque en remerciement et en reconnaissance de ce temps et de toutes ces choses que tu as données, alors que moi, j'ai épargné et que j'ai progressé dans ma carrière. C'est pas la même chose, en fait, de dire merci et de dire merci en signant un chèque pour la personne qui le fait. Donc, en fait, c'est de la. Je m'emballe un peu, mais c'est.
Non, c'est
Il
super
faut
intéressant.
pas
C'est bien, c'est bien.
être naïf dans les histoires d'amour. Et moi, mon credo, c'est de dire que, en fait, aujourd'hui, en 2022, et même depuis des décennies, on ne fait plus de mariage d'intérêt. On ne se marie plus avec quelqu'un parce qu'il est riche. On ne se marie plus avec une femme parce que elle est héritière. C'est pas vrai. On fait des mariages d'amour. Et c'est très bien comme ça. Le problème, c'est que on ne pense pas suffisamment à ses intérêts. Et l'idée n'est pas de transformer tout le monde en mante religieuse. L'idée est de dire, mais pensez à vous protéger. Et ne vous imaginez pas que la société va vous protéger, que les juges vont vous protéger, que les conseillers en gestion de patrimoine vont vous protéger, que les avocats vont vous protéger. Parce que ça a été prouvé par des travaux en tout cas documentés dans des travaux de sociologie très intéressants. Et ben en général, ils sont plus du côté de l'argent. Et s'il y a le même genre les mêmes sommes d'un côté et de l'autre, ils sont plus du côté de l'homme. Donc il faut arrêter. En fait, il faut non seulement que les femmes ne soient pas naïves, mais il faut qu'elles soient doublement combatives sur ce
D'accord.
terrain-là, parce que malheureusement, les faits montrent encore que ce sont elles qui trinquent au moment des séparations et des deuils. Je te donne juste ce chiffre de au bout de 3 ans après une séparation, les hommes ont perdu 2% de niveau de vie et les femmes 19%.
Wow.
Voilà.
Ça fait une claque. Oh oui, quand même. C'est une belle claque, quand même. Non, non, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Et ce qui est intéressant dans ce que tu nous as rapporté, c'est le fait de bien signaler qu'effectivement, maintenant, on fait des mariages d'amour et c'est devenu presque indécent de penser argent ou patrimoine et de le concevoir au moment de l'union, s'il y a des mariages ou Pacs, ou quand vraiment les choses deviennent sérieuses, même s'il n'y a pas de mariage ou de Pacs, parce qu'on dirait que c'est vulgaire. Je sais que c'est quelque chose qui revient, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Je raconte toujours cette anecdote-là parce que moi, j'ai été une des premières à me marier dans mon cercle familial et d'amis, enfin, pas dans ma famille, mais j'étais à une génération où il n'y avait plus trop de mariages. Enfin, je pense qu'il y a des phases comme ça où les gens se marient, puis à un moment donné, tout le monde n'est plus en âge de se marier ou autre. Et donc, quand je suis arrivée à la mairie et que monsieur le maire a fait savoir qu'il y avait un contrat de mariage, je sais qu'il y a des gens qui ont dit, waouh, t'as fait un contrat de mariage, mais pourquoi t'as fait ça? C'est pas romantique, t'as prévu de divorcer, c'est parce qu'il a plus d'argent que toi ou c'est parce qu'il en a. Tout de suite, les gens avaient des questions très déplacées ou une remise en cause, en fait, entre guillemets, de l'amour qu'il y avait entre nous deux, alors qu'en fait, nous, on avait juste pris les devants et des précautions. Et je le dis tout le temps à chaque fois, mais en fait, moi, j'avais l'intention de créer une entreprise et j'avais prévu, en fait, que ça ne soit pas dans le pot commun, l'entreprise. Donc, mon entreprise n'est pas dans le pot commun de mon mariage. Donc, il y a une exclusion, en fait, dans mon contrat de mariage. Et ça a été la meilleure chose que j'ai faite parce que quand j'ai fait faillite, on est venu forcément chercher moi, j'avais plus rien. Donc, on est venu chercher du patrimoine chez mon mari et mon mari pouvait sortir le contrat de mariage en disant, je n'ai rien à voir avec cette affaire. Voilà, vous voyez avec elle, si elle a rien, elle a rien.
Non, non, mais le contrat en séparation de biens, en fait, il est très mal vu et mal perçu par certaines personnes. Ce que je trouve assez, en général, c'est assez peu réfléchi comme réflexion, mais moi j'ai déjà entendu des clientes me dire oui, j'ai fait un contrat de mariage et on m'a jugé en fait. Mais moi je trouve que c'est enfin on fait ce qu'on veut en réalité. L'important c'est de comprendre parce que t'as des situations dans lesquelles la séparation de biens, donc ce qui correspond souvent à un contrat de mariage le plus souvent, n'est pas adaptée parce qu'elle précarise encore plus les femmes, notamment.
Alors moi, j'ai pas de
Si tu
contrat de
te maries
séparation de biens, je te
avec
confirme.
quelqu'un, si tu te maries avec quelqu'un qui gagne très bien sa vie et qui a du patrimoine et que toi, tu gagnes pas bien ta vie et que parce que tu gagnes pas bien ta vie, tu dis, bon, ben, je vais donner plus de temps pour la famille, pour les enfants
Pour compenser.
pour compenser et que tu mets pas d'argent de côté, etc. Ben, quand tu es marié en séparation de biens, tu vas rester pauvre et l'autre va rester riche
C'est
et
ça.
t'auras aucune compensation du temps que tu as passé, de toutes ces choses-là et de tout l'investissement que tu auras fait pour la famille, en fait. Donc toi, tu auras une espèce de manque à gagner à chaque euro ou à chaque minute donnée pour la communauté. C'est un peu dur. En revanche, dans les situations dans lesquelles les deux travaillent, ont des salaires et des salaires en tout cas à peu près équivalents, et aussi dans les situations dans lesquelles il y a des boîtes, et ben c'est un contrat qui est, moi, que j'aime bien parce qu'il est clair, il est facile à lire en fait. Il n'y a pas d'ambiguïté en fait, c'est chacun sa gueule.
Voilà.
Donc, enfin, désolé, hein, c'est pas très chic comme façon de parler, mais voilà, il n'y a pas de solidarité des dettes. En dehors des dettes pour la famille, enfin, il y a, moi, ce régime-là, le régime de la séparation, je le trouve beaucoup plus clair que le régime de la communauté réduite aux acquis, qui est un mariage sans contrat. Mais en réalité, c'est pas un mariage sans contrat. C'est un contrat par défaut.
Oui, c'est
C'est comme
ça.
si tu prenais un contrat standard. Faut arrêter de dire que c'est pas romantique. Quand tu vas te marier à la mairie, je suis
On
désolée, tu
signe
signes
quelque chose.
en bas de documents d'état civil qui sont parfaitement pas romantique. Enfin, le maire lit quand même
Oui, le
des
civil, c'est...
extraits
Enfin,
du Code civil. Je suis désolée, c'est tout sauf un acte romantique, le
On est
mariage, en fait.
d'accord, on est
C'est
d'accord.
après, tu peux faire une belle fête, tu peux dire c'est romantique de s'engager devant tout le monde, etc. Sauf que le Code civil, en fait, régit ta vie à deux et tes finances. Et donc, enfin, pour moi, c'est un énorme a priori que de dire. C'est romantique de se marier sans contrat et c'est pas romantique de se marier avec contrat. Enfin, ces gens-là n'ont pas réfléchi. Enfin,
Ils ne
je
t'ont pas posé
suis
la
désolée,
réflexion au bon
je
endroit.
m'emballe un peu.
Non, mais personnellement, moi, j'ai déjà posé mes opinions là-dessus, en tout cas au niveau de les personnes qui me suivent, donc je pense qu'elles ne seront pas choquées. Moi, en toute transparence, moi, j'ai un contrat de participation aux acquêts.
Ah, c'est
C'est un
rigolo, d'accord, ouais.
mix un peu entre la séparation de biens et la communauté d'acquêts. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que mon notaire nous avait fait des. Ça fait vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait un contrat un peu à l'américaine parce qu'il est très personnalisé. Et effectivement, je pouvais mettre dans la participation aux acquêts le fait que je puisse créer une entreprise, ça serait rentré dans la communauté. Et en fait, non, j'ai exclu dès le départ tout ce qui est entreprise parce que je m'imaginais déjà devenir la future Bill Gates. Et je me disais, ah ben non, ça me ferait chier si je divorçais de devoir donner la moitié de mon entreprise, sachant que ça serait moi qui l'aurais créé dans mon coin et que mon mari est salarié, il a vocation à rester salarié. Ça l'intéresse pas d'être entrepreneur. Donc, j'avais déjà anticipé ce truc-là, me dire ça m'embêterait de devoir lui faire un chèque en monnaie sonnante et trébuchante, sachant que la valorisation d'une entreprise, des fois, c'est pas du cash, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai exclu, en fait, l'entreprise, en lui disant que s'il veut avoir des parts dans l'entreprise, il n'a qu'à avoir des parts dans l'entreprise et non pas juste. Son nom n'est pas dans mes sociétés. Et en fait, quelque part, quand on est dans la communauté de biens, même si son nom n'y est pas, en fait, il y a quand même sa part. Et en fait, en gros, comme pour le résumer, je dis toujours, en fait, nous, on est solidaires dans la richesse, mais pas dans la pauvreté. C'est ce que dit mon contrat, en fait, concrètement. Donc, s'il gagne au loto, c'est cadeau pour nous deux. S'il s'achète une Ferrari qui ne peut pas la payer, bah, c'est son problème. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le contrat que j'ai choisi de faire. Et je suis ravie, encore une fois, je remercie mon notaire à l'époque d'avoir pris le temps de nous expliquer plein de choses. On était jeunes, cons, j'ai envie de dire, amoureux. Et oui, c'était très terre à terre, mais je dis souvent, mon contrat de mariage a sauvé mon mariage plus d'une fois, parce que les problèmes d'argent dans un couple, c'est récurrent. Et que des fois, bah, c'est bien de savoir que voilà, ça, c'est à toi, ça, c'est à moi. Et c'est autant de charges mentales en moins dans ma tête et dans la sienne, tout
Ouais, non,
bêtement.
mais c'est sûr. Et la solidarité des dettes professionnelles, c'est quand même quelque chose
C'est dur, c'est
qui est
assez dur.
compliqué à encaisser, en fait, parce que, ben, parce que,
On n'est pas concerné, enfin,
on n'est
l'autre
pas,
partie
enfin,
n'est
on
pas
se sent
concernée
pas
aussi.
ni concerné ni responsable. Alors, enfin, moi, c'est un sujet que je connais assez bien parce que j'ai un papa photographe qui a subi de très très gros impayés quand il y a eu une puis deux crises. Enfin, c'est un truc je pense tous les photographes connaissent et beaucoup d'indépendants connaissent. C'est très difficile, mais en même temps, quand tu te places à la place de l'autre, te dire que l'argent réclamé est réclamé à la communauté, c'est un peu dur, quoi.
Oui.
C'est un peu difficile, voilà.
Ça crée des tensions là où des fois il aurait pu
Ouais.
ne pas en avoir si les choses avaient été un peu plus clarifiées, claires à l'avance. Voilà, donc du coup, voilà, je voulais m'attarder un petit peu sur ce livre que tu as écrit et franchement, ce que tu nous en dis, ça donne vraiment envie de le lire. Alors, je te l'avais fait remarquer, hein, moi je tendance à lire les formats papier parce que je suis de la vieille école. J'ai beaucoup de mal avec le numérique, à lire le numérique, parce que ça me fatigue énormément les yeux. Donc, pour être tout à fait sincère, je n'ai pas encore eu le temps d'aller jusqu'au bout, parce que
Oui.
justement, pour ces raisons-là, je suis beaucoup moins rapide à lire. Mais oui, mais je pense que c'est un. Il n'y en a pas beaucoup des bouquins qui parlent de ça et qui parlent de. Qui mélangent les deux, donc je trouve que c'est génial. Et derrière, en plus, bon, maintenant, tu es conseillère en gestion de patrimoine, donc ça y est. C'est bien, enfin, journaliste, tu as écrit un livre, maintenant tu fais de la gestion de patrimoine. Et je voulais savoir depuis combien de temps tu pratiques cette activité-là. Voilà, quoi. Et qu'est-ce qui t'a poussé en fait finalement à te lancer là-dedans?
Ben en fait, alors ça fait à peu près 3 ans et demi que j'ai créé Oseille et compagnie. C'était en septembre 2018. Mais c'est un projet que j'avais en tête depuis très longtemps parce que donc j'ai été journaliste spécialisée dans les placements financiers pendant les premières années de ma carrière et puis pendant les dernières années de ma carrière de journaliste. Entre-temps, j'ai fait d'autres choses parce que j'avais envie de voir d'autres choses, mais les premières années où j'ai travaillé là-dedans, qui est un sujet dans lequel j'ai atterri un peu par hasard, hein. Il faut pas, enfin c'était pas une vocation pour moi. Je me suis rendu compte en fait, c'était les premières années où je commençais à travailler et donc à gagner ma vie et donc à être un petit peu sollicitée par la banque parce que tout d'un coup j'avais un salaire et puis un salaire régulier et puis un salaire pas dégueulasse et puis voilà. Donc j'étais une bonne cible pour vendre des produits et en même temps, eh ben mon travail. J'avais autour de moi, enfin, je me suis formée un peu sur le tas avec des gens qui m'ont expliqué beaucoup de choses, mais j'avais des gens qui achetaient des apparts, qui négociaient leurs taux, qui prenaient des courtiers, qui faisaient des tas de trucs. J'ai aussi des gens qui achetaient des titres très, enfin, qui faisaient des paris un peu risqués sur le plan financier, mais je me suis formée à ça un peu sur le tas et un peu par hasard au moment où je commençais à gagner ma vie et je me suis dit mais merde en fait j'y connais rien et puis au bout d'un moment j'ai eu plein de gens autour de moi qui sont venus me dire ah bah toi tu travailles là-dedans tu dois pouvoir me dire ça 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 ça
Ah.
ça et je me suis dit mais en fait personne n'y connaît rien, personne n'y connaît rien et je me souviens qu'à l'époque j'ai fait aussi un article sur les banques privées et les banques de fortune, la gestion de fortune. Donc j'étais allée visiter des locaux dans des banques avec des fauteuils en pierre tapissés, enfin des locaux un petit peu chabada quoi. En fait, bah voilà, les banques pour les gens qui sont très très très
Alors,
très
j'ai
riches.
travaillé dans une banque de gestion de fortune. Je vois très bien à quoi ça peut ressembler, une banque suisse. On a l'impression d'être dans un hôtel, limite, et on vous retire votre manteau, on vous sert un champagne si
Voilà,
vous
on te sert un
demandez.
petit café, on te voilà. Bon, c'est rigolo, mais en fait, je me suis dit finalement, tout ce qui est proposé dans ces banques-là, c'est que pour les gens qui sont très riches. Et de temps en temps, eh ben, les histoires d'ingénierie, de compréhension de. Alors, j'aime pas trop ce mot-là. En plus, l'ingénierie, c'est. Mais je trouve un peu pompeux. De compréhension de ton organisation financière, les problèmes de qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que ça charge trop la barque? Est-ce que ça charge pas trop la barque? Est-ce que c'est trop risqué pour moi? Est-ce que c'est pas assez risqué pour moi? Etc. Tout ça, tu n'y as pas accès si tu n'as pas énormément d'argent. Ou alors, tu y as accès, mais tu y as accès uniquement via ta banque. Et ben en fait, voilà, moi, je me suis dit, j'ai envie de faire du conseil pour les gens qui ont un besoin ponctuel ou régulier de conseils, même s'ils ne sont pas fondateurs d'une boîte qui sera cotée au CAC 40 l'année prochaine, en fait.
Absolument.
Il y a besoin de temps en temps de faire un point, de regarder les grandes lignes, de se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai assez avancé? Est-ce que j'ai besoin d'aller plus vite? Est-ce que j'ai besoin de ralentir? Est-ce que ce projet-là est complètement délirant compte tenu de ma situation où il y a plein de choses qui sont pas figées et pas certaines? En fait, tout ça est très important et tout ça. Sont des questions que tout le monde se pose et pas seulement les fondateurs et les fondatrices de grosses boîtes et de start-up. Donc voilà, mon idée c'était de faire ça. Et donc au bout de quelques années, même de longues années de journalisme, j'ai décidé de m'inscrire dans un master en gestion de patrimoine. J'ai passé 2 ans là-bas. En plus de mon boulot, donc c'était assez intense. Et puis après, je me suis lancée en fait. Mais c'était un projet réfléchi. Et je suis très contente parce que quand je travaille avec mes clients et mes clientes, je me sens pleinement utile en fait.
D'accord. Oui, bah oui, forcément. Surtout que c'est des questions que beaucoup se posent. Et c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à ça, sur le fait que beaucoup de personnes se posent, enfin, on se pose tous les mêmes questions, peu importe le niveau de revenu ou de
Ouais.
patrimoine que l'on détient. Mais l'information, elle est encerclée que pour une certaine élite. Je n'ai pas d'autre mot que celui-ci, parce qu'effectivement, elle est accessible qu'à certaines personnes qui ont beaucoup d'argent. Alors moi, je le dis encore une fois par rapport à mon expérience professionnelle passée, même si c'était il y a très longtemps. Moi, j'ai travaillé en fait d'abord des banques de particuliers, le truc hyper classique, la gestion de patrimoine. Puis après, je suis partie dans des banques un peu plus qui se positionnent un peu premium, donc avec une clientèle qu'on appelle patrimoniale. Et puis après, j'ai été en banque de gestion de fortune. Et puis je suis partie après en banque d'investissement. Alors là, c'est un autre délire encore. Et donc des clients différents. Et je me rendais compte à quel point même la qualité des personnes qui donnaient le conseil n'était pas la même. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ont une vraie expertise. On voit en fait même dans le type de personnes qui donnent des conseils, il y a certains qui sont plus ou moins formés. Puis plus j'allais vers la fortune, plus les gens étaient experts, ils savaient faire des montages super audacieux. Et des fois, je trouve ça dingue de me dire, waouh, c'est pas accessible à certaines personnes juste parce que ben, en fait, ces personnes-là vont gagner 2000 euros par mois et que pour eux, c'est pas suffisant, vous n'êtes pas éligible à ça. Ou alors, vous n'avez pas potentiellement une entreprise que si vous la revendez, ça va vous rapporter des millions. Donc, du coup, vous avez droit à des petits soins particuliers. Parce qu'il y a aussi ça, il y a des personnes qui ne gagnent pas forcément un cash fou, qui n'ont pas forcément un salaire extraordinaire, mais qui sont détenteurs d'une entreprise qui est très fortement valorisée. Le banquier le sait, donc il
Oui.
va être sympa avec eux, leur accorder des petites choses parce qu'ils se disent, oui, voilà, dans 5-6 ans, il va peut-être revendre son entreprise. Et quand il va la revendre, ben, on espère
Ça va
que
être le jackpot.
pour eux, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on leur donne des conseils, des choses comme ça, un petit peu gracieusement, à travers un banquier. Et puis, alors que ce même conseiller ne va plutôt, enfin, piper aucun mot pour l'autre client qui, lui, ben, en fait, il est juste peut-être cadre dans une entreprise et il gagne 3 000 euros par mois. Et puis, c'est tout, ça va être capé par là. Je trouve ça tellement injuste. C'est tellement injuste.
Ouais, à l'inverse, moi, ce que j'observe aussi beaucoup dans ma pratique, c'est une espèce de passion pour j'aime pas trop ce mot-là, mais des montages hyper compliqués et qui ont un petit côté un peu flatteur pour certains clients, en fait.
Ah oui.
Et de temps en temps, tu demandes aux gens, mais pourquoi vous avez fait ça en fait? Vous vous souvenez pourquoi vous êtes mis dans cette telle société, telle holding, etc. Ils sont même pas capables de te redire pourquoi ils ont utilisé ce schéma-là. Et en réalité, parfois, c'est plus de la complexité et des frais qu'une réelle utilité financière, patrimoniale, etc. Donc c'est si tu veux, je me méfie aussi un peu à l'inverse de ce côté, on va vous apporter des schémas patrimoniaux hyper sophistiqués et souvent, ben, bien souvent, en réalité, les choses simples que tu maîtrises sont plus faciles à gérer sur le long terme. Mais
Après, c'est
bon, ça,
peut-être
c'est un
pour
avis.
justifier la présence de certains,
Oui,
j'imagine, on
pour
doit
justifier de la
justifier.
présence et puis pour facturer des honoraires. Parce que quand tu crées une société, quand tu crées une deuxième société, ça fait des très beaux honoraires, il faut solliciter des avocats, il faut solliciter des comptables, il faut solliciter des
Et tout ça
commissaires aux
aux frais
comptes,
de
parfois
qui?
tout ça aux frais de tes clients. Et en fait, bon, ça fait beaucoup travailler les professionnels du droit et du chiffre. Je pense qu'au final, c'est pas. Alors évidemment, je ne veux pas caricaturer, c'est pas comme ça dans toutes les situations, mais je vois vraiment des situations dans lesquelles les gens se sont mis dans des schémas très très complexes et qu'ils maîtrisent pas du tout. Et en fait, je trouve ça dommage parce que de toute façon, tu as un passage à la caisse à la sortie en général qui est assez douloureux et que de toute façon, ça leur coûte de toute façon tous les ans assez cher.
Oui,
Mais bon,
ça pour net ça.
c'est un dosage qu'il faut avoir entre la simplicité et la sophistication. Et ben, parfois, si on t'a pas proposé de montage très très audacieux, c'est peut-être pas non plus complètement un hasard. Enfin,
D'accord.
en tout cas, c'est
Je
ma
vois.
conviction.
Tout à... Et je voulais savoir, par rapport aux prestations que tu proposes, alors déjà, quel type de prestations? Donc, tu as expliqué que tu apportes du conseil, mais tes clients, qu'est-ce qu'ils attendent de toi, généralement, quand ils viennent te voir, quelles sont leurs attentes les plus récurrentes ou peut-être les moins courantes?
L'attente la plus récurrente, c'est est-ce que je me lance dans cette nouvelle opération immobilière ou pas? Combien ça va me coûter? Combien ça va me coûter sur la durée? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop peu? Est-ce que c'est un peu du dosage, c'est un peu de la réflexion sur une opération. La deuxième attente la plus courante, c'est bon, là maintenant mes livrets sont pleins, l'épargne de précaution, je pense que c'est bon. J'ai déjà acheté ma maison, donc je me sens assez à l'aise, j'ai un job plutôt pas mal, je suis à peu près sécurisée. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'en ai marre d'alimenter mon compte courant. Donc, qu'est-ce que je fais? J'y connais rien, je ne sais pas investir mon argent. Comment je fais et quelle dose de risque je prends, etc., etc.
D'accord.
Et puis après, il y a des gens qui sont dans toutes les demandes, il y a, je pense à mes retraites. Ça,
Oui.
chez tous les clients, en fait. Ben, évidemment, la retraite, c'est quelque chose alors qui se prépare sur le très long terme. Certaines personnes n'ont pas conscience que en ayant acheté leur maison, par exemple, elles ont déjà commencé à préparer leur retraite.
Oui,
Et
oui.
souvent, parfois, je leur dis, bah, en fait, on va aller plus loin, mais ce que vous avez fait, déjà, c'est vachement bien, en fait. Vous avez déjà beaucoup avancé pour préparer votre retraite. Et puis, il y a les histoires de transmission aussi. Qu'est-ce que je laisse derrière moi si, quand tu as une famille, qu'est-ce qui se passe s'il m'arrive quelque chose, etc. Ça, c'est chez les gens qui ont des enfants, c'est toujours un sujet. Et même chez les gens qui n'ont pas d'enfants, d'ailleurs, parce que ces gens-là, souvent, ont quand même des envies très précises et savent bien que entre ce que prévoit la loi et ce qu'elle prévoit elle, ce qu'ils prévoient eux, eh bien, il y a une différence et donc ils ont besoin de réfléchir à ça. Enfin,
Oui, puis il y a
ben,
des histoires
en
de parfois
réalité.
de prêter enfin, transmettre par exemple à des neveux et nièces. Je dis ça parce que j'ai un cas de figure comme ça dans ma famille, quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant mais qui a des neveux et nièces et qui se dit waouh, en fait, il s'était renseigné, il se rend compte que ça va coûter très cher. Enfin, elle, a priori, non, puisqu'elle ne sera plus là, mais que la transmission peut être très onéreuse de cette manière-là. Donc, du coup, se disent pourrait peut-être anticiper si elle ne peut pas avoir l'impression que le patrimoine se dilue dans des frais de succession.
Ouais.
Il y a aussi ce genre de situation, ça me revenait en tête parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ont peur des frais de succession alors que beaucoup de personnes ne sont pas vraiment concernées par les frais de succession parce que les patrimoines transmis sont souvent en dessous des seuils d'abattement, enfin, ça dépend du nombre d'enfants, etc. Et je pense que tu t'y connais mieux que moi par rapport à ça. Mais il y a des cas de figure où effectivement, ça peut faire très mal quand c'est pas en ligne
Quand
directe, en
c'est pas en
fait.
ligne directe, oui, ça fait assez mal, c'est vrai. Et donc, non, mais ça fait partie des sujets. En réalité, Stéphanie, les demandes de mes clients sont pas si différentes des demandes des clients des banques privées et des banques de fortune. C'est
D'accord.
qu'est-ce que. Alors, évidemment, il y a rarement des énormes boîtes à revendre et des impôts sur la plus-value à gérer, etc. Mais il y a quand même, qu'est-ce que je fais avec cet argent que je gagne pour l'investir de façon intelligente, pour l'investir, ça c'est un sujet qui monte de façon à ne pas donner à ne pas signer de chèque en blanc à des boîtes qui font n'importe quoi aussi.
Oui.
Voilà, j'ai pas envie d'investir dans les OGM, dans tout un tas de trucs. Et qu'est-ce que je fais pour faire les choses de façon intelligente et pour pas me retrouver sur la paille et si possible pour pouvoir transmettre quelque chose à mes enfants quand j'en ai. Ce sont des interrogations très finalement très basique. Après, tu as plein de façons de parvenir à tous ces sujets-là et de faire en sorte que ça soit le plus soft possible et que le patrimoine soit le mieux diversifié possible, etc. Mais l'idée, c'est vraiment ça, en fait. C'est que comment j'avance et comment je fais en sorte, à la fin, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas cautionner non plus n'importe quoi, et si possible, de vivre à peu près confortablement jusqu'à la
Oui,
fin de mes jours.
ça aussi c'est important parce qu'on pense à sa transmission, mais si on pouvait profiter de son argent
Avant,
maintenant, oui, profitons vivant quand même.
Et puis, j'ai aussi beaucoup de clients qui viennent et de clientes qui viennent et qui sont très préoccupés par leurs parents. Là, on arrive.
Ah oui.
Mes clients, ils ont souvent entre eux, je vais te dire majoritairement entre 40 et 50 ans. Le très gros de ma clientèle, c'est à peu près ça. J'en ai des plus jeunes, mais c'est un peu plus rare. Et en réalité, là, on est vraiment dans les âges où. Pour ceux qui ont encore leurs parents, eh bien, ce sont des âges où on
Oui, la
commence à avoir des
dépendance des
parents qui sont
parents.
touchés par des maladies d'Alzheimer, par des maladies de Parkinson, par des trucs qui sont vraiment pas agréables, qui ont des accidents cardiaques, des accidents vasculaires, etc. Et en fait, eh bien, ça crée un sujet qui est le sujet de la dépendance. Et selon que tu es tout seul dans la famille à gérer ça, ou que tu es trois ou quatre, eh bien, ça ne se passe pas de la même façon. Selon les moyens de la famille, ça ne se passe pas de la même façon. Et ça, c'est un vrai, vrai, vrai sujet de préoccupation. Et on parle beaucoup des gens qui donnent de l'argent à leurs enfants pour aider leurs enfants, etc. Mais il y a aussi de plus en plus de gens qui financent le troisième âge et le quatrième âge de leurs parents. Et ça, il ne faut
Oui.
pas l'oublier. Et ça fait partie des sujets. Bon,
C'est
c'est
un
pas très
vrai.
gai, hein, mais c'est une
Non, c'est pas très gay,
réalité.
mais pour moi, c'est très important parce que justement, les gens ne s'en rendent pas compte. Et enfin, je dis ça parce que, alors, j'ai toujours plein d'ailleurs, j'ai une très grande famille, donc du coup, c'est pour ça qu'il se passe toujours plein de choses dans ma vie. Mais voilà, j'ai des cousins plus âgés que moi, et donc avec des oncles et tantes qui commencent à être vraiment le troisième âge, voire le quatrième âge. C'est pas le cas de mes parents qui, cette année, partent à la retraite seulement. Donc, du
Ah,
coup,
ils sont jeunes.
ils sont relativement jeunes. Et mon père, encore, il a fait du rab, hein, parce que ça lui faisait plaisir. Mais voilà, donc, du coup, je ne suis pas encore concernée par ce genre de situation. Par contre, j'ai des grands cousins j'en ai un en particulier qui a ses deux parents qui se retrouvent subitement en EHPAD, alors que lui travaille encore. Et il ne peut pas s'en occuper forcément au domicile, ce n'est pas possible. Et le problème même, c'est que le prix d'une EHPAD, c'est juste exorbitant. Les gens ne se rendent pas compte, en fait, que c'est. Enfin, les gens ont une vague idée que c'est cher, mais ils ne savent pas combien c'est cher. Et donc, lui, il en a pour au moins 7 000 euros par mois, en fait, à financer. Et évidemment que mes oncles et tantes n'ont pas ces 7 000 euros par mois, en fait, de revenus en retraite. Ils ne les ont pas. Heureusement qu'eux, ils avaient une maison. Le sujet, c'est que ils sont relativement jeunes pour aller en EHPAD. Donc, cette rente, combien de temps ça va tenir? Parce que qu'est-ce qui se passe après, en fait? Qu'est-ce qui se passe après quand ils auront rongé tout l'argent de la maison qui a été vendue? C'est un vrai sujet, parce qu'à mon avis, ils ont que 70 ans, en fait, mais ils ont fait tant, ils sont déjà en EHPAD. S'ils ont une espérance de vie comme ma grand-mère de 95 ans,
Un
voilà.
petit souci, pardon.
Oui, donc je
Mais
disais, voilà,
oui, en effet.
ça coûte très cher, et donc effectivement, de faire remonter de l'argent, enfin, quand je dis remonter, c'est de transmettre de l'argent à ses parents, sans s'appauvrir soi, alors qu'on a soi-même des enfants, etc. C'est un vrai sujet et qui est souvent peu abordé parce qu'on le met sous le tapis, je pense. C'est un petit côté, on n'y pensera pas, on ne va pas se porter la poisse. Ben non, en fait, peut-être qu'il vaut mieux en parler et l'envisager.
Et malheureusement, enfin, même si tu fais de gros efforts, tu n'arriveras pas toujours à atteindre ces montants-là. Et enfin, ce sont des vrais sujets. Mais les enfants ont un devoir de, enfin, une obligation alimentaire envers leurs parents et une obligation de en réalité, enfin, évidemment, tu as l'obligation légale, et puis de toute façon, la plupart du temps, tes parents, ils se sont occupés de toi, tu les aimes, bah,
Oui.
tu te poses même pas la question, mais en réalité, c'est très compliqué. à gérer ce genre de situation. Et ça fait partie des interrogations financières, forcément.
Oui, ça, bah, c'est des interrogations financières qui sont légitimes. Et c'est pour ça, par exemple, en ce qui me concerne, même si je suis encore, moi, je suis à la fin de ma trentaine, mais je pense déjà aussi, je me dis, je me constitue du patrimoine, pas que pour ma retraite, mais j'essaie de me constituer aussi du patrimoine pour ne pas être une charge financière au cas où, dans un futur lointain, j'espère, il m'arriverait que je serais dans une situation de dépendance. Parce que je pense, en fait, j'ose en parler. Enfin, maintenant, j'ai conscience de ça parce qu'effectivement, c'est parce que j'ai vu mes cousins à qui ça arrive. Bon, pas tous, mais ça arrive. Donc, du coup, je pense plus que retraite. Je pense aussi, oui, mais alors, j'ai ma retraite, ok, c'est bon, j'aurais peut-être payé ma maison dans quelques années, j'aurais ça comme revenu, etc. Mais qu'est-ce qui se passe si tu dois encore sortir de l'argent pour financer le reliquat de l'EHPAD et que malgré les subventions qui n'existeront peut-être plus d'ici là pour l'EHPAD, parce qu'il y a des aides, mais il y a. Tout n'est pas pourvu. Qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est quand j'en parle maintenant, enfin, je sais autour de moi, il y a des gens qui me disent, voilà, tu vas trop loin là.
Ben
Bah
non, en
non.
fait, non, mais c'est pareil que le contrat de mariage, en fait, c'est que ça fait partie des réalités. Une séparation, un deuil et malheureusement une situation de dépendance, ce sont des réalités financières et c'est pas parce qu'on n'y pense pas que ça n'arrive pas. Et à l'inverse, ça n'est pas parce qu'on se prépare à ces choses-là que ça va arriver.
Au
Donc,
mieux, ça tombe mieux pour mes enfants, ils auront plus d'argent à
voilà,
dépenser.
et donc, bon, bah, c'est typiquement dans les histoires de couple, si on revient à ça, les gens qui sont pacsés ne sont pas du tout protégés en cas de disparition prématurée de la personne avec laquelle ils vivent. Donc, quand on se pacse, il faut faire un testament et ça va pas vous faire mourir de faire un testament, en
Ah
fait.
bon? Non, je fais exprès, je fais de l'ironie, mais
Je sais,
c'est
je
vrai.
sais, je sais bien.
Mais c'est marrant parce qu'effectivement, on a l'impression que les gens pensent qu'ils vont provoquer leur malchance alors que pas du tout, il n'y a pas de raison. Je voulais te demander, parce que tu utilises beaucoup les réseaux sociaux, c'est comme ça que je t'ai connue via ton compte Instagram, et puis j'ai vu aussi que tu étais sur LinkedIn, tu es même sur Twitter. Je vois donc que tu utilises de plus en plus donc les réseaux sociaux pour promouvoir ton activité, j'imagine pour attirer aussi des nouveaux clients. Qu'est-ce que ça fait? Enfin, toi, parce que c'est tellement des sujets un peu tabous, tu sais, un peu confidentiels, un peu de bureau, tu sais, etc. Donc, parler d'argent comme ça publiquement, c'est quand même pas si courant, c'est quand même pas si commun. Comment les gens ont accueilli ta démarche et les clients ou peut-être ton entourage justement de parler d'argent, de casser aussi de parler de certains tabous. T'as parlé je sais qu'une fois, tu as parlé d'héritage sur tes réseaux. Donc, c'est quand même pas des sujets hyper fun et hyper courants. Enfin, et toi, tu le fais. Donc, voilà.
Bah, je le fais sans aucun scrupule parce qu'en réalité, en réalité, l'héritage, c'est pas. Alors, t'es pas toujours un héritier prospère, mais par exemple, enfin, perdre ses parents, ça arrive ou ça va arriver à tout le monde. Enfin,
A
c'est quand même un
priori.
truc. Donc, en fait. Peut-être que ce n'est pas quelque chose qui bouffe ton quotidien, parce que tu ne penses pas à la mort de tes parents tous les jours et tu ne penses
Heureusement.
pas, enfin, sauf quand tu es dans une situation un peu difficile, une maladie, des choses comme ça, mais et ta propre mort, tu n'y penses pas forcément tous les jours non plus, mais ça va arriver à un moment ou à un autre. Dans un couple, une séparation ou une séparation par la mort, ça va arriver à un moment ou à un autre.
Sans aucun doute.
Donc, en réalité, peut-être que ça n'est pas quotidien, mais ça nous concerne tous et toutes. Et ben moi, quand je parle d'argent sur les réseaux sociaux, je considère déjà que les personnes qui se sont abonnées à mon compte, y trouvent un intérêt. Et puis l'argent est dans nos vies, en fait. Enfin, tous les mois, si les personnes qui sont salariées ne touchent pas leur salaire, je suis désolée, déjà elles sont contrariées parce qu'elles ont travaillé et qu'elles méritent un salaire. Et en plus, elles sont dans la merde parce qu'elles ne peuvent pas faire face à leurs charges quotidiennes et à leur train de vie. Donc c'est l'argent est dans nos vies, c'est un sujet quotidien. La façon dont on gagne l'argent et dont on épargne et dont on se constitue un patrimoine. Eh ben, c'est un sujet quotidien. Malheureusement, aujourd'hui, la part des héritages est beaucoup trop forte dans ce qu'on constitue comme patrimoine. C'est plus de 60%. C'était 35% il y a 40 ans. Et ça veut dire qu'il y a quand même Il y a quand même un problème, il y a quand même un déséquilibre, il y a un creusement des déséquilibres avec les héritages, etc. Mais ça fait partie du quotidien. Et finalement, étonnamment, quand j'écris sur l'héritage et quand j'écris sur les droits de succession, eh ben, j'ai plein de retours en message privé, en mail. Enfin, ça concerne tout le monde en réalité. Donc, je ne considère pas que ce soit sale d'en parler. Après, j'ai eu cette chance ou cette malchance, j'en sais rien. Je n'ai été élevée dans aucune religion. Et puis, chez moi, il n'y avait pas vraiment de tabou autour de ces sujets-là. Contrairement à d'autres familles dans lesquelles, surtout, il ne faut pas parler de ça. Mais j'ai aucun scrupule. Et puis après, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la presse économique. Donc, si tu veux, d'abord, on parle de dizaines, centaines de milliers, parce que j'ai parlé de l'épargne des Français. Après, j'ai suivi l'actualité des entreprises. Donc là, on compte plutôt en milliards et en dizaines de milliards, parfois en centaines de milliards. Et puis après, j'ai suivi notamment le financement de l'UNEDIC et toutes ces choses-là. Et là, c'est pareil, tu comptes en gros milliards. Donc, j'ai aucun. Enfin, ce ne sont pas pour autant des milliards que j'ai manipulés moi-même, évidemment. Mais je n'ai strictement aucun scrupule à parler d'argent, ça ne me gêne pas. Et je trouve que c'est le fait de ne pas en parler, ça nous est dommageable en fait, parce que ça devrait être un sujet de conversation comme un autre. Je vais pas te dire que c'est le plus intéressant, sincèrement.
Moi, ça me passionne,
Y
hein,
a,
parce que
non, mais
pourtant.
moi aussi ça me passionne, mais j'aime lire, j'aime écouter de la musique, j'aime aller au cinéma, j'aime aller au théâtre, j'aime faire, enfin, tu vois, je fais des tas d'autres trucs. Qui n'ont rien à voir avec ça, et heureusement, parce que ça serait, enfin, sinon le monde serait trop restreint. En revanche, ça devrait être un sujet de conversation comme un autre, parce que comme on n'en parle pas, eh ben, on ne connaît pas le salaire de son voisin, donc on se rend compte au bout de 10 ans que on gagne 2 fois moins que lui et que c'est parfaitement dégueulasse parce qu'on fait quasiment on fait le même travail que lui, parce qu'on n'en parle pas, on retrouve des gens qui se mettent en situation de surendettement parce qu'ils n'ont pas réussi à bien anticiper certaines choses. Il y a des gens qui sont en difficulté. Je ne dis pas que c'est de leur faute, hein, c'est pas. Il y a des gens qui sont en difficulté parce qu'ils sont en difficulté. C'est pas. Mais il y a aussi des gens qui sont en difficulté parce qu'on ne leur a pas appris à faire leur compte, à comprendre les entrées, les sorties, etc. Et donc ça, c'est un vide majeur en réalité. Et puis parce qu'on ne parle pas d'argent, on a des séparations où les gens s'imaginent que ça va être moitié-moitié. En fait, c'est chacun sa gueule.
Oui, c'est ce qu'on disait en tout début tout à l'heure,
Et
ouais.
donc, en fait, je trouve que c'est ne pas en parler, c'est dangereux. Parce que si ça te fait te mettre dans des situations qui sont dangereuses pour toi, et ben, c'est débile de ne pas en parler. Et j'ajoute qu'on n'en parle pas assez parce que beaucoup de gens n'ont pas intérêt non plus à ce qu'on en parle.
Ah, tu penses à quoi, à qui en
Eh
particulier?
ben, dans certaines familles, enfin, je pense à l'histoire du travail domestique, etc. Enfin, dans certaines familles, si tu ouvres le dossier, tu vas te faire. Ça va pas bien se passer en fait. Je pense aussi à l'histoire de. Je vais rentrer dans des schémas hyper traditionnels, mais un schéma familial où monsieur a une boîte, madame travaille pas ou a un boulot salarié à mi-temps, etc. Est-ce que. Enfin, le grand classique, c'est quand même de dire non, mais t'inquiète, je m'en occupe. Ben, en fait, non, c'est non. Non, non, moi j'ai besoin de savoir ce qu'il y a dans les comptes, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a dans la caisse. Et le fait que des tas de gens ne connaissent même pas le salaire de leur conjoint, Non.
C'est
c'est quand même préoccupant. Mais oui, les avocats te disent ça parce que les années où tu as des primes, etc., eh ben, tu fanfaronnes pas à la maison en disant super, j'ai gagné 3 fois plus que l'an dernier. Tu fanfaronnes
Ça me
pas du
parle,
tout.
c'est marrant, c'est alors c'est génial que tu apportes le sujet parce que des fois, tu sais, j'ai des noms, j'ai des impensés. Voilà, je sais pas comment le formuler autrement. Moi, je connais évidemment très bien combien gagne mon mari et j'avais jamais imaginé, je n'avais jamais pensé que quelqu'un ne pourrait pas savoir combien gagne son conjoint. Et le fait que tu me le dises, je me dis, mais c'est vrai, ça doit être possible. Et j'imagine toutes les magouilles. Pour moi, c'est que dans les films, tu sais,
Les
le genre de.
avocats te disent que c'est une personne sur cinq
Waouh!
au
Oh,
moment
punaise!
de séparation. Alors, et puis après, parfois, tu peux avoir le salaire fixe en tête et puis tu connais pas le montant des
Oui, les primes.
bonus, tu
Ouais,
vois.
mais les
Enfin.
primes, ça peut être conséquent. Enfin, là, je dis ça, c'est le mois des bonus. Là, mon mari, il a touché ses bonus, c'est les trucs, les machins. Oui, enfin, c'est la fête du slip quand même. Les bonus, c'est des fois plusieurs mois de salaire en plus. Donc, si tu ne les connais pas, tu ne sais pas du tout comment c'est dépensé, comment ça peut. Oh là là, c'est dingue!
Donc en fait, moi je trouve que c'est très dommageable de ne pas en parler. Et pour tout te dire, mais je pense que ça doit être pareil pour toi, moi j'ai pas reçu tellement de messages de ah, tu parles que d'argent, etc. Si mon homme, pour rigoler, me dit ah, toi tu penses qu'à l'argent,
C'est la
mais en
boutade,
fait, c'est
j'imagine.
le premier, c'est une boutade parce que. Il est le premier à suivre de très près ce qui se passe chez Oseille et compagnie. Ça l'intéresse beaucoup. Il fait ma promo. Enfin bon, c'est super. Mais donc c'est vraiment pour rigoler. Mais sinon, j'ai pas eu tellement de reproches
En tout cas, sur les sujets ou
de
tes contenus,
critiques
quoi.
sur le fait d'écrire sur l'héritage, le divorce, les investissements financiers. Après, tout le monde n'a pas le même. Si tu veux, t'as des. Moi, j'ai aucun problème avec le principe des marchés, même si je pense qu'ils doivent être réglementés, régulés, etc., et surveillés, et qu'il y a beaucoup d'excès. Mais voilà, et puis t'as des gens qui sont bloqués, enfin, qui sont anti-marché, etc. Bon, bah, ces gens-là, je pense que je ne peux pas forcément. Enfin, ces gens-là, ils ne s'abonnent pas à mon compte, et ce n'est
Oui,
pas
tout
grave.
simplement.
Mais je pense que, enfin voilà, l'argent est partout dans nos vies, donc il faut en parler, quoi.
Ok.
C'est ça mon credo.
J'avais une petite question alors sur. Alors ça, c'est plus pour l'anecdote, mais est-ce que tu as éventuellement une anecdote sur un client qui a été particulièrement surprenant à tes yeux? Est-ce que tu es éventuellement, enfin, sans dévoiler son
Ah,
identité, évidemment, parce que
tu me prends un
c'est.
peu de court là. Attends. Tu me prends un peu de court, je suis désolée.
D'accord, parce que toi, je repensais justement quand tu disais, voilà, il y a des couples dont l'un des deux, enfin, ne connaît pas exactement combien chacun gagne. Ça me surprend réellement. Je pense que je vais la ressortir en disant, selon Héloïse Boll, j'ai appris que
Ah non, mais
20%
ça,
des
c'est.
couples,
Moi,
c'est.
c'est les avocats qui me l'avaient dit, c'est que les avocats qui te disent au moment de l'arrivée, au moment de divorcer, parce que les avocats, ils voient les gens,
Oui.
les
Tout le
avocats
monde
en
au
droit de la
moment.
famille, ils voient les gens à ce moment-là. Et bah, finalement, quand ça va pas très bien dans ton couple, tu n'as peut-être pas envie de communiquer à mort là-dessus, quoi.
Ah.
J'ai pas énormément d'histoires là comme ça qui me viennent. À brûle pour point. C'est dommage, je suis désolée. Non, en réalité, moi, ce qui me frappe, c'est parfois vraiment de voir à quel point certaines femmes, sans se rendre compte, se mettent dans des organisations qui les mettent en danger. Et ça, je le vois vraiment tous les jours ma pratique le confirme. Donc
Alors, qu'est-ce que tu appelles se mettre en danger? Est-ce que tu peux
Bah, en danger
spécifier?
financier.
Ah,
En
d'accord.
danger financier, c'est-à-dire que c'est des gens qui font pas leur crash test, en fait, qui viennent en couple, qui disent, voilà, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Et puis quand tu regardes, en fait, tu te rends compte que l'un a beaucoup et que l'autre n'a pas
En
beaucoup.
fait, il y a
Et
du on et
que.
en fait, c'est il a
Ouais,
ça,
voilà.
ou la compagne, si
Voilà,
c'est un. Voilà.
ouais.
Et en fait, elles mettent du on là où il n'y a pas de on.
Voilà, ou des femmes qui mettent toute leur épargne sur des comptes qu'elles ouvrent au nom de leurs enfants, parce que c'est une démarche très altruiste. Et...
Ah
Mais ça, c'est dangereux, en fait.
oui, parce que
C'est
monsieur peut
dangereux.
récupérer l'épargne, en fait, en
Ben oui,
gros.
en tout cas, il faut son accord pour la récupérer. Donc, c'est super dangereux. Bon, je suis désolée parce que ce n'est pas une anecdote drôle du coup. mais c'est une situation que j'observe régulièrement et que je trouve un peu que je trouve un peu dangereuse en fait.
Non, mais c'est bien, on en a beaucoup parlé de. En plus, tu dis les mots qui peuvent être frappants, mais dangereux. Enfin, parler d'argent, ça peut être dangereux de ne pas en parler, justement. Et je pense que. Alors, moi, je parle d'argent, mais sans. Moi, je ne suis pas comme toi, je ne conseille pas et je ne me fais pas payer pour conseiller. Et je ne souhaite pas le faire parce que, justement, je sais que ça a été une petite entrevue juste avant le podcast pour préciser. Parce que, Héloïse, tu es conseillère en gestion de patrimoine, donc tu es homologuée, enfin, tu es agréée plutôt. Donc, c'est important, tu as une formation pour. Et tu n'es pas coach. Et ce n'est pas
Et
pour
je suis,
dénigrer les
oui.
coachs, mais c'est que, en fait, il y a une réglementation, une législation. Une réglementation en France, et c'est bien d'avoir des comme toi des personnes qui donnent du conseil en gestion de patrimoine de manière réglementée, suivie, parce que en fait, ce que tu dis t'engage en fait, enfin, t'engage. Tu as plutôt intérêt à pas dire ou faire n'importe quoi parce que, effectivement, sinon, en termes d'assurance, on pourrait se
Ah bah
retourner contre
oui.
toi. C'est ça que je veux dire par là. Alors que les coachs, il y a des
Exactement,
personnes qui
ouais.
se permettent de dire des choses, mais entre guillemets, les conseils n'engagent que ceux qui les écoutent. Oui, en fait, non. Il y a des lois, en fait. Logiquement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et effectivement, à écouter des conseils de personnes qui ne seraient pas les payeurs, entre guillemets, qui voudraient aller investir tout en ETF, monde, je ne sais quoi, et puis vous vous retrouvez 2 ans plus tard, vous n'avez plus rien. Et puis vous avez l'impression que bah, tant pis pour vous, bah, en fait non, en réalité quand même, vous pouvez
Ouais,
faire les
c'est
choses de
bien de
manière
faire
stratégique.
attention, ouais.
Voilà, je me permets du coup de le respécifier pour ça, parce que heureusement que voilà, c'est une profession réglementée, et je le dis aussi parce que moi j'ai travaillé avec beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine indépendant, j'ai travaillé avec des salariés comme ça, mais c'est une vraie profession réglementée. Alors là, j'imagine que tu as un numéro,
Ah
voilà.
bien sûr, ouais.
Donc voilà, et c'est important.
Et puis j'ajoute, si tu me permets, avant qu'on conclue, que je fais aussi des ateliers pour expliquer les fondamentaux en fait de l'épargne et des finances personnelles. Et ça, c'est parce que en fait, tout le monde n'a pas forcément besoin de venir pour une séance de conseil ou pour commander un long bilan patrimonial, parce que parfois la situation est simple, mais quand on se lance dans la vie, on peut avoir besoin et envie de comprendre un petit peu le fonctionnement des marchés, le fonctionnement de l'immobilier, le fonctionnement des impôts et toutes ces choses-là. Et ça,
D'accord.
c'est quelque chose que je fais dans des ateliers. Ça aussi, ça fait partie des sujets. Enfin, là, pour le coup, c'est plus du tout du conseil, c'est ce que j'appellerais de l'éducation financière. Et je pense que ça fait partie du même. Ça participe de la même démarche, en fait, de démocratiser vraiment les finances personnelles et de parler d'argent et d'essayer de faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes comprennent comment ça marche.
Ok.
Et voilà. Parce que c'est très important, parce que mieux on comprend et mieux on avance et plus on peut être serein et dans ce qu'on fait, en fait.
Oui, non, tout à fait. Là-dessus, c'est clair que moi, à titre personnel, je ramène ça à moi, mais de savoir où est-ce que je vais, à quoi ça va ressembler, et surtout d'avoir un projet précis avec mon argent. C'est tellement plus simple. En plus, des fois, c'est juste de planifier, juste d'anticiper deux, trois trucs. J'ai envie d'acheter un bien immobilier. Donc, je planifie de mettre un peu d'argent de côté, de telle somme, etc. Enfin, et pourquoi et comment ça va m'engager. C'est tellement plus simple de savoir où est-ce qu'on en est. Et ça, c'est juste des fois de poser les choses, de prendre le temps de la réflexion et pas juste mettre ça sous le tapis en disant je verrai plus tard. Et puis, le verrai plus tard n'arrive jamais. Et puis, on se réveille un matin, wow, on est à la retraite et puis on n'a pas pensé. On y pense 2 ans avant. Ça, je le vois aussi beaucoup, des gens qui
Oui.
pensent, ils ont 60 ans, ils se disent dans 2 ans, je suis à la retraite, il faut que je prépare. Et là, on se dit, qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce
Alors,
que je
c'est-à-dire qu'il te reste 2 ans, alors, on va voir, c'est un peu plus compliqué quand même.
fais?
J'avais une petite une dernière fin de. J'ai deux, trois petites questions pour finir, mais dans 5 ans, Oseille et compagnie, ça ressemble à quoi?
Il y a plusieurs options, donc je préfère garder cette réponse pour moi pour le moment.
Ok, d'accord. Ben, écoute, on regardera dans 5 ans qu'est-ce que ça a donné. Et alors moi, il y a des petits rituels, il y a les questions cash, puisque le podcast s'appelle le cash talk, pardon. La première question, c'est Est-ce que tu appliques les recommandations que tu donnes à tes clients?
Je pense, oui, je pense, pour la plupart. Là, je suis dans une espèce de creux où j'utilise pas ma capacité d'endettement, mais c'est en cours. C'est un projet, enfin, je suis en train de remplir un dossier, etc. Donc, pour voir dans quelle mesure je suis finançable et surtout à hauteur de combien. Donc voilà, en ce moment M, je n'ai pas, je n'utilise pas ma capacité d'endettement et j'ai pas mal d'argent sur un compte courant parce que je veux faire une nouvelle opération immobilière en réalité. Que donc là, c'est vraiment un conseil que je donne à mes clients, c'est vous avez une opération immobilière sur le feu, vous ne n'investissez pas votre argent sur les marchés. Voilà. J'ai aussi de l'argent sur les marchés, mais j'ai un gros montant qui sera dédié à un investissement immobilier dans quelques temps. Donc, au moment même, je ne suis pas au top de la location financière parce que je suis en attente d'un projet immobilier, en fait.
Ok,
Voilà.
je vois. Et alors après, ma deuxième question, c'était aujourd'hui, donc tu as créé Osei Company il y a 3 ans, 3 ans et demi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es à 100% de cette activité, donc tu as envie, ou est-ce que tu as peut-être d'autres activités à côté?
Non, j'en vis. Ça faisait partie de mon projet de départ. C'était
Top.
si je crée une boîte, s'il faut que ce soit une boîte qui me permette de me payer, d'être rentable, parce que je fais pas, enfin, je travaille pas pour la gloire en fait. Si
Ah
je
bon?
travaillais pour la gloire, je ferais autre chose. Mais malheureusement, j'ai pas les moyens de travailler pour la gloire. J'ai pas les moyens de travailler gratuitement. Ça, je le dis régulièrement à des gens qui viennent me dire, ah, mais vas-y, on fait un truc ensemble et tout, ça serait très sympa, etc. Bah oui, c'est sympa, mais moi, en fait, je n'ai pas les moyens de travailler gratuitement. Je gagne ma vie, mais je ne gagne pas ma vie comme je la gagnais avant. J'aspire à gagner mieux ma vie
D'accord.
parce que ça fait 3 ans et demi que je gagne, c'est pas indécent, mais que je gagne moins d'argent qu'avant et que j'aimerais mieux être un peu moins contrainte et avoir une meilleure capacité d'épargne et une meilleure capacité d'endettement. Donc voilà, je suis en train de faire ce qu'il faut aussi pour que les résultats de la boîte soient un peu plus conséquents et pour que je puisse me verser une rémunération un peu plus élevée d'ici la fin de l'année, j'espère. Mais j'en
D'accord.
vis et ça faisait partie de mes objectifs et je pense que je ne travaillerai jamais pour la gloire. Parce que travailler pour la gloire, ça s'appelle du bénévolat et ce n'est pas l'objectif et la vocation de ma société. J'ai une société à but lucratif.
Non, mais oui, c'est très bien de le repréciser, hein, de toute façon. Sinon, il y a effectivement les associations qui sont à but non lucratif et c'est une toute autre vacation.
Oui, mais ça, c'est un choix. J'ai aussi une petite activité bénévole, mais ça relève
La
ça
vie
relève d'un choix
personnelle, oui.
qui est le mien, en fait. Ça relève pas
C'est pas
de la
subi.
volonté de mes clients, de certains clients, de pas me payer ou de dire bah, c'est trop cher. Ben non, mais en fait, c'est le tarif que j'ai fixé et qui correspond à un modèle dans lequel je suis à l'aise économiquement, parce que
D'ailleurs, j'ai oublié de
c'est
te
très
poser cette
important.
question-là, justement, parce que j'imagine que tu dois avoir probablement des sollicitations, et notamment peut-être à cause des réseaux sociaux où l'information circule de manière plus ou moins gratuite, ou voilà, enfin, peu importe. Ça doit arriver que des personnes, j'imagine, t'envoient un mail ou peut-être un message privé, et en fait, ils veulent que tu leur fasses une cartographie patrimoniale, et tout ça avec un merci pour toute rémunération. Comment tu fais pour gérer ce genre de, j'appelle ça des touristes, entre guillemets, qui doivent savoir au fond que tu
Bah,
factures et puis mais qui se permettent quand même de demander des conseils
bah
gratuits.
alors, ça m'arrive quand c'est des petits messages sympas et que la question est simple, ça m'arrive de répondre si j'ai le temps et dans les délais que je me fixe moi, parce que voilà, la priorité c'est quand même mes clients. Quand c'est la même personne qui me pose 4 questions différentes d'affilée, à un moment je dis je ne sais pas, ou soit je ne sais pas, soit je ne peux pas répondre à votre question. Soit ce que je vous conseille, c'est de prendre rendez-vous. en fait.
Tout simplement.
Mais non, j'ai pas trop de, j'ai plus trop de touristes. En fait, j'en ai eu au début quand je faisais la première prise de contact gratuite. Et là, je me suis rendu compte que je me faisais ronger la chair, le sang, etc., par des gens qui posaient tout le temps plein de questions, etc. Et dont j'avais plus de nouvelles après. Donc maintenant, je facture le premier rendez-vous parce que c'est un rendez-vous dans lequel je donne beaucoup d'informations et parfois pas mal de conseils.
Je vois.
Donc, j'ai mis un terme à ce fonctionnement-là, encore une fois, parce que malheureusement, je n'ai pas les moyens de travailler pour la gloire. J'aimerais beaucoup pouvoir travailler bénévolement à 100%, mais pour ça, il faudrait que... Et ben, il faudrait que je sois une riche héritière ou que je gagne au loto. Et malheureusement, il ne m'est arrivé ni l'un ni l'autre. Donc voilà, je peux pas travailler gratuitement.
Et ma dernière question, et c'est ma dernière question cash, quelle a été ta plus grande victoire ou ta plus grande satisfaction depuis que tu t'es lancée, depuis que tu as lancé peut-être Osée et Compagnie, ou peut-être même avant, peut-être que ça n'a rien à voir. Est-ce que tu as un sentiment, tu sais, de grande satisfaction, de grande victoire professionnelle?
Ma plus grande satisfaction, c'est quand des clients et des clientes m'écrivent en disant: on a fait exactement ce que vous nous aviez dit, on est trop content, on a avancé, on a récupéré de l'argent auprès des impôts, parce que
Wow.
parfois je détecte des petites erreurs dans les déclarations. Et alors ça, franchement, ça c'est génial. Les gens qui t'écrivent pour te dire: bah, je viens de récupérer 3 000 euros auprès des impôts grâce à votre conseil. Là, moi, je me sens pleinement utile, tu vois.
Ah oui.
Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et franchement, c'est très, très agréable. Ou des gens auprès de qui tu insistes vraiment pour qu'ils mènent une action. Notamment, là, je travaille avec des personnes âgées sur une histoire de préparation de succession, etc. Quand ils finissent par comprendre l'importance de faire les choses dans tel ou tel sens, etc., et qu'ils sortent de chez le notaire et qu'ils disent: ah, oh, on est super content, on a fait ce que vous nous aviez dit, et le notaire nous a dit que c'était une bonne idée, bah, merci le notaire.
De valider ton travail.
voilà, enfin. Là, je suis très contente, en fait. Et puis, bah, à la fin de mes ateliers, en général, quand j'ai des gens qui m'écrivent, qui ont suivi les ateliers, qui m'écrivent, et c'est souvent des femmes, hein, c'est majoritairement des femmes, en disant oh, qu'est-ce que je suis contente d'avoir suivi ces ateliers, depuis que j'ai suivi les ateliers, j'ai fait ça, 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 je me sens beaucoup plus à l'aise, etc. Mais tu peux pas savoir le sentiment d'utilité que j'ai, quoi. C'est une vraie, vraie satisfaction, Stéphanie.
Je n'en doute pas. Et puis, tu nous as apporté beaucoup d'éclairage pendant ce podcast, notamment sur la situation des femmes, avec tout ce que tu, enfin, toute ton expérience, et puis en tant que journaliste, et puis maintenant en étant conseillère en gestion de patrimoine. Mais sur, tu vois, quand tu nous parles de les femmes se mettent en danger à cause de leur régime matrimonial ou le travail non rémunéré, mais qui est, par exemple, les tâches domestiques, etc. C'est vrai que c'est super éclairant. Et je suis vraiment ravie que tu aies pris la peine déjà de répondre à mes questions et puis d'apporter cet angle-là, en fait, ce point de vue-là, parce que tu le vois au quotidien et puis je pense que tu as eu l'expérience passée. Et j'espère que ça va éclairer certaines personnes à se dire, tiens, à avoir un déclic. Est-ce que je ne suis pas dans une situation de danger, mais je ne m'en rends pas compte? Tu sais, tu es au bord du précipice, mais comme tu ne le vois pas, tu ne t'en rends pas compte et qu'ils ont peut-être envie de passer par chez toi, par chez Osaïe Compagnie, pour avoir peut-être des conseils, des éclairages, peut-être être guidé et orienté. En tout cas, moi, je te remercie. J'ai
Bah,
trouvé
merci
l'échange
à toi,
super,
Stéphanie.
super.
Merci de ton accueil.
Et écoute, est-ce que tu peux peut-être nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des personnes qui écoutent le podcast qui se disent, bon, je crois que je vais appeler Héloïse, j'aimerais faire quelque chose, où est-ce qu'on peut te retrouver et
Bah,
comment?
il y a un site internet qui s'appelle Oseille et Compagnie. Donc, c'est assez bien ré référencé. Si tu tapes Oseille et Compagnie sur ton moteur de recherche, tu vas le trouver assez vite et tu peux
OK.
prendre rendez-vous. Il y a un compte Instagram, oseille.e.compagnie. Et puis, j'ai aussi une newsletter qui s'appelle Prends l'Oseille, qui est une newsletter
Top.
mensuelle. Et ça, si tu tapes sur les moteurs de recherche newsletter, prends l'oseille, et ben tu peux t'abonner. Et voilà, j'essaye de donner parfois des conseils pratiques, j'essaye d'alerter sur certaines situations à risque. Enfin, voilà, j'ai pas de, je me fixe pas de feuille de route parce que je suis pas un média, je suis pas, enfin. Mon vrai métier, c'est le conseil et l'éducation financière. Cette newsletter, elle est gratuite, donc je fais un peu ce que je veux dessus. Et c'est d'ailleurs ce qui me séduit, c'est que je sais jamais trop à l'avance ce que je vais préparer. Mais voilà, j'ai plutôt de bons retours et ça me fait assez plaisir. Voilà, merci Stéphanie
Bah écoute,
pour
merci
ton
Héloïse.
accueil.
Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui pour ce podcast. Je vous dis à une très prochaine fois avec une nouvelle invitée. À bientôt!